Bonjour Denis.
Bonjour.
Alors présente-nous un petit peu ta série Universal War 2 qui est la suite d'Universal War 1 et qui précède Universal War 3 je suppose.
Oui, bien vu. Comment présenter ça en moins de 20 minutes En fait c'est la suite, donc c'est vraiment, on reprend l'action quasiment là où on l'a quittée, dans un système solaire qui a été ravagé, la Terre a été détruite, donc on se retrouve sur Mars, il y a des survivants, ils sont occupés par une super civilisation qui a réglé la guerre. Et bah, comme tout endroit occupé, il y a des gens qui sont pas contents, la situation commence à dégénérer, et nous on suit ça du point de vue de l'occupant. Le sympathique occidental sûr de lui qui croit qu'il a raison. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'arrive le truc qui ne doit pas arriver, à savoir que le soleil est attaqué par d'étranges triangles noirs.
Et alors, du coup, ce qui est assez marrant dans la construction de cette série, c'est que tu avais prévu dès le début que ça ferait 18 tomes.
Oui, j'avais même écrit les 18 tomes, parce que bon, prévoir que ça faisait 18 tomes, j'aurais pu dire « Oh, ça va faire 4000 tomes !» Mais oui, c'est une histoire que, en fait, quand j'ai eu l'occasion de faire enfin tout seul ce que je voulais, qu'un éditeur me l'a offert, en l'occurrence Soleil, j'ai vraiment écrit tout ce qui me passait par la tête la première semaine, et j'ai tout gardé. Donc la deuxième semaine j'ai tout mis en ordre, j'ai classé, j'ai commencé à construire une histoire et en fait j'ai fini par créer les trois saisons avec les 6 volumes par saison et c'est vraiment devenu une sorte d'encyclopédie de la SF où j'ai essayé de parler de toutes mes passions d'enfance sur le sujet, voire d'adolescence. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à une espèce d'ovni comme ça écrit en 97 que je suis toujours en train de réaliser maintenant.
Justement, c'est assez dingue, tu dis que tu as tout gardé dans tes idées. Souvent, les artistes, quand ils écrivent quelque chose, ils aiment bien se replonger sur leurs idées qu'ils ont eues un an plus tard et se dire « Ah, finalement, ça marchait pas, ça marche, ça marche moyennement. » Est-ce que tu me dis que tu as tout gardé de ce que tu as écrit?
Alors, on va dire que j'ai fait un squelette, un gros diplodocus avec tous les os en place, mais je n'ai pas mis la chair. Donc, il y a encore énormément d'espace de liberté. Un truc idiot, par exemple, dans le genre, le personnage de W2, au début, était un homme. Quand j'ai commencé à faire le storyboard, je me suis rendu compte que j'étais en train de redupliquer le personnage principal de Universal War 1. Donc, j'en ai fait une fille, ce qui décale totalement le ton, évidemment, instantanément, puisqu'on projette toujours des choses sur les héroïnes féminines qu'on ne projette pas sur les hommes et vice-versa.
Et est-ce que c'était une volonté au départ de parler à peu près de tous les pans de la science-fiction? Tu mets le voyage dans le temps, voyage dans l'espace...
Ça date de cette espèce de moment de fou où j'ai inventé ce projet à partir de rien. Je crois qu'il y avait l'envie, oui, de faire de la SF totalement et absolument, et donc de tout y mettre. C'est pas une volonté qui était claire. Je me rends compte maintenant que c'était dans mon inconscient, quoi. Le côté encyclopédie de tout ce qu'on peut faire avec la SF, quoi. Maintenant j'en suis vachement content parce que en ça c'est marrant, il y a des gens qui arrivent en disant oh j'adore c'est Dark Science, d'autres qui arrivent en disant oh c'est du space opéra, c'est génial, d'autres qui font ah j'aime bien, c'est une histoire vachement intime pour de la SF, etc. Et à chaque fois avoir réussi à commencer déjà à traiter tous ces sujets, ça apporte une super différence par rapport à la SF habituelle où on est toujours d'un côté ou de l'autre. Et moi ça me réjouit de faire de la pure SF comme ça totale, d'essayer d'apporter une sorte d'ouverture complète du genre, quoi.
Il y a un truc moi qui m'a frappé avec Universal War 1 que je connaissais pas bien encore il y a peu de temps, c'est le côté spectaculaire dans la communication de la sortie d'Universal War 2. Il y a eu un trailer qui était très beau, c'est rare les trailers réussis avec la bande dessinée, sauf que pour moi, enfin c'est peut-être un avis un petit peu con, mais la SF ça passe souvent du roman au cinéma ou de la BD au cinéma, et pour l'instant avec Universal War 1 et War 2 on n'a pas trop d'indices là-dessus. Est-ce que tu aimerais le porter au cinéma un jour? Alors évidemment, je pense qu'il faudrait
Vous avez mal fouillé Internet, parce qu'en fait, si vous tapez Universal War 1 Movie, vous trouverez un article de Variety, par exemple, dans lequel on annonce le scénariste de la série, du film. Donc d'accord. En fait, c'est au travail.
Okay.
Quand je dis la série, c'est qu'en fait, on pense trilogie. En fait, l'idée, c'est de faire trois films, avec les trois fois six tomes.
Mais du coup, je suis super content d'avoir mal fouillé Internet, parce que c'est quand
voilà.
même une bonne nouvelle.
Voilà, donc en fait, alors c'est du cinéma, hein, le cinéma, donc le budget estimé, on démarre à 40 millions d'euros minimum, on n'a aucune idée d'où ça va nous emmener, c'est un film en coprode international en tournant en anglais, qui doit rentrer dans les critères hollywoodiens, c'est le travail qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire de réussir à déjà raccourcir l'histoire un petit peu, la faire rentrer dans un format plus hollywoodien, sans sacrifier le fondamental, ce qui est donc un exercice d'équilibriste absolu, mais c'est vraiment en tout cas en train d'avancer. Donc après voilà, c'est le cinéma, c'est est-ce qu'on va finalement trouver tous les partenaires? Il y a quelqu'un qui met beaucoup d'argent au démarrage, donc ça a quand même des chances de se faire, mais bon, je peux pas dire Personne, tant qu'une production n'est pas lancée, personne ne peut dire que le film se fera. Donc voilà, on en est à cette étape-là.
Il y a un studio qui est déjà attaché au projet ou...
Oui. Enfin, il y a une société qui une société de production. Parce que le problème, c'est pas le studio, c'est l'argent. Hein. Okay. Donc voilà, il y a une société qui a une grosse société belge qui fait dans l'investissement de cinéma, qui a déjà fait financer plusieurs centaines de films depuis une décennie.
D'accord.
Dont des films que tout le monde connaît. Elle était dans le financement, je sais pas, Clou-Clou, The Artist.
On voit les Kelsey, du coup.
Voilà. Donc c'est pas l'Umedia, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est pas un secret non plus. Et on a même le nom du scénariste pour l'instant qui travaille dessus, qui est Skip Wood. Okay. Qui a fait pour les films les plus connus des choses très variées, parfois pas réussies, mais comme il dit, on n'est pas toujours d'accord avec le réalisateur. Donc ça peut être le Wolverine, le Danny Dayard, le Mission Impossible. Enfin voilà, c'est un gros technicien d'Hollywood et on a besoin vraiment de ça parce qu'on est obligé de trouver un équilibre. Parce que bon, faire de la BD dans son coin, c'est facile en fait. Quelque part, si on arrive à trouver 10 000 lecteurs, on s'en sort quoi. Au cinéma, quand on fait cracher 40 millions d'euros à des gens, bah, ils veulent récupérer leurs millions.
T'imagines, ouais.
Voilà, donc il faut trouver l'équilibre.
Et si on se projette un petit peu, du coup, j'ai plein de questions. qui tu rêves de voir à la réalisation? Qui tu rêves de voir?
Alors, ce serait beaucoup trop avancé parce qu'il y a des noms, il y a des gens, il y a déjà un réalisateur qui est en train de travailler dessus, etc. Mais je peux vraiment pas le dire.
D'accord.
Là, on arrive dans le. Je ne peux dire que ce qui est disponible déjà en public parce que il y a des enjeux vraiment importants et donc. Voilà.
Et tu vas travailler dessus vraiment? Ça va être une vraie collaboration avec ce
scénariste. J'étais il y a deux semaines, je crois, à Bruxelles, où j'ai passé plusieurs journées avec les producteurs et le scénariste à travailler au scénario, à ce qu'on pouvait retirer ou ne pas retirer. Donc pour l'instant, il m'implique à 100%. Leur envie, et c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec ce producteur-là, c'est quand il est venu me voir, il m'a dit: je veux que les gens, en sortant de salle de cinéma, aient la même impression que moi j'ai eue en fermant l'intégrale. Voilà. Ce qui est plutôt. Plutôt le bon moyen, je pense, de réussir à le faire, voilà.
Et pour recentrer sur la BD, est-ce que tu as très conceptualisé en fait le voyage dans le temps? C'est assez compliqué à mettre en œuvre dans une BD qui est pas forcément le média le plus facile pour ça, parce qu'il y a la limite de la case.
Oui.
Comment tu as articulé tout ça, le côté art science et le côté très graphique?
Le mélange, tout se mélange, c'est moi en fait. Je suis scientifique par nature. C'est à l'école, quand les cours de maths, tout le monde s'arrachait les cheveux et puis moi je faisais: ah bah ouais, bien sûr. Donc il y a une facilité avec la logique, avec les mathématiques, qui fait que je me pose pas trop la question. La seule question que je me pose, c'est comment vulgariser ça, entre guillemets, comment ne pas semer les lecteurs, parce que je refuse de faire des trucs à clé. Je fais de l'art pop, hein, tout le monde doit pouvoir comprendre, s'il fait un minimum de travail, quoi. Donc voilà, la question a plutôt été d'ordre, le même problème que le gars qui fait Science et Vie: comment expliquer des choses très compliquées de manière très simple, le plus vite possible même, parce qu'en BD on n'a pas beaucoup de place. Après, comment je l'ai fait, alors là c'est... j'aurais du mal à l'expliquer, enfin, c'est le genre de choses, on passe des heures à trouver l'équilibre et puis à un moment on l'a, quoi. Mais
justement, tu dis qu'en BD on n'a pas beaucoup de place, est-ce que finalement Universal Warren c'était un bon succès? Est-ce que tu n'avais pas eu envie de changer de format du format classique 46 pages etc.
Alors au départ j'avais même le choix du format, l'éditeur m'avait laissé même le choix du format, j'aurais pu choisir un format avec plus de pages etc. Il y a une sorte de gageur à réussir avec la contrainte je fais de l'art pop, encore une fois, j'ai envie de réussir ça dans le format qui était le plus populaire à l'époque. En changer maintenant, ce serait juste essayer de tordre le bras à un truc que j'ai initié de manière différente. Je vois pas trop l'intérêt, faut que j'en réussisse à le faire là-dedans, c'est l'exercice. C'est vachement intéressant en plus de pas. Parce qu'à la limite, je dirais: ouais, alors j'ai 20 000 pages, je fais ce que je veux. Je vais y arriver, comme ça, c'est évident, quoi. Réussir à faire ça dans le cadre d'un 46 pages, avec la difficulté d'avoir à chaque fois la chute à la fin des 46 pages, d'avoir peu de temps pour raconter des choses, en plus à vouloir faire du psychologique, du spatial, de l'explication. C'est ça qui est intéressant, enfin, c'est ça qui fait que le matin je me lève pour faire mon boulot, quoi. Si c'était juste pour coucher sur papier mon trip de la veille, je vois pas trop l'intérêt en fait. Voilà.
Et maintenant que tu as ta propre structure d'édition, pourquoi avoir choisi d'éditer Universal War 2 chez Casterman?
Eh ben, je n'ai plus ma propre structure d'édition.
D'accord.
Voilà, c'était le cadran qui était là où est terminé Universal War à l'époque, One. C'était vraiment un projet d'édition qu'on avait monté avec l'ancien propriétaire de Soleil. Il s'avère qu'il a vendu Soleil à Delcourt, et il l'a vendu pour une raison, c'est qu'il n'était plus beaucoup là. Et déjà, avant même qu'il ait vendu Soleil à Delcourt, nous, on était en train de se rendre compte que ce projet, on ne pouvait pas vraiment le tenir sans lui. sans sa présence effective dans la boîte, parce que c'était un truc qui marchait vachement à la confiance. Et quand les gens sont absents, c'est plus difficile. Donc on s'était vraiment posé des questions, et comme on avait embauché une éditrice avec nous, pour travailler avec nous, finalement, on lui a laissé les clés du bâtiment bien avant d'envisager de bouger, parce que ça c'était des équilibres qui ne nous plaisaient pas beaucoup.
Voilà. Et est-ce que c'est pour ça qu'on voit des triangles attaquer le soleil
Eh ben, j'ai guidé le cours la semaine dernière au festival de Saint-Malo. Je le vois dans le bar pour la première fois depuis un mois. Il me fait « Dis donc, j'ai bien aimé la symbolique. Là. T'as bien exprimé la situation. » C'est un hasard complet. Il s'avère que je m'en suis aperçu au moment où je faisais le dessin. Ça m'a beaucoup fait rire. C'est la sorte de clin d'œil. Parce que je ne suis pas du tout fâché avec Delcourt, ni Soleil, etc. Quand j'ai décidé de changer de maison d'édition, c'est qu'à l'époque, donc, chez Soleil, l'absence de Mourad Boudjalal compliquait la donne. Et quand Guy a arraché la boîte, moi je lui dis tout de suite, je suis super content, il y a à nouveau un capitaine sur le pont du bateau, tant mieux. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que moi, dans la tête, je suis parti, je suis en route vers un autre éditeur. Et j'ai fait un peu le tour de tous les éditeurs, j'ai cherché surtout les gens qui avaient la passion, qui avaient envie de tout arracher, quoi, en gros. Et bah, vous avez dû voir la sortie, ils ont tout arraché, en effet, on l'a vu partout, etc. Et moi, c'est ça que je recherche, parce que c'est une histoire compliquée. Je suis toujours extrêmement étonné du nombre d'albums que j'ai pu vendre avec ça. Quand j'ai commencé, on m'aurait dit les 6 premiers tomes, tu vas les vendre 1 million d'exemplaires. J'aurais fait quoi ? Pardon ? Comment on fait ? Parce que franchement, pour moi, c'était une série à 20 000 ex quoi, par tome. À la fin, j'aurais fini à 200 000 cumulés. J'aurais fait ouais, super. J'avais l'impression de faire un peu de hard science, un peu de space up mélangé, mais tout ça me paraissait pas simple du tout, et d'exiger beaucoup du public. Avoir trouvé autant de gens, il y a un côté super satisfaisant de se dire tiens, on a beau dire en France qu'il n'y a que des gens pour regarder Minimati, non, il y a plein de gens qui ont envie de se défoncer un peu le crâne avec moi quoi, pour aller plus loin et plonger en profondeur dans les mystères de la science.
C'est presque une belle conclusion, mais ce ne sera pas la conclusion, parce que j'ai encore une dernière question qui n'a rien à voir avec Universal War One. Tout à l'heure en off, tu me disais que tu ne fais plus de dédicaces depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, 2006-2007.
Tu nous as exposé les raisons. J'aimerais quand même que tu les exposes aux auditeurs, parce qu'on est assez d'accord avec toi finalement là-dessus, et que c'est quand même un sujet qui est assez sensible et compliqué.
Bah, la première raison, c'est que plus on devient célèbre en BD, plus on se ramasse toujours les 500 mêmes personnes, qui sont parfois un peu des gros lourds. Je me souviens du dernier festival où j'ai dédicacé, où j'ai vu annoncé à 17h, les gens qui se mettent en file à 9h le matin, déjà, bonjour l'état d'abrutissement au moment où on les rencontre enfin. Les 4-5 premiers disent rien, ils sont là pour avoir leur dédicace, je sais pas, même pas, peut-être pour les revendre sur eBay, je n'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Et le cinquième, enfin, il commence à parler, il fait « Ah, j'aime bien ce que vous faites, excusez-moi, je vais mourir ». Il arrive à parler, on discute 5 minutes, et au bout de 5 minutes, j'entends quelqu'un qui fait derrière « Ça y est, il commence à parler, on va encore prendre 10 minutes de retard ». Voilà, c'est ça une séance de dédicace de nos jours, quoi. Alors, c'est pas ça chez un très jeune auteur, parce qu'il a pas énormément de gens derrière la table, mais ça menace toute personne qui s'accomplit dans ce travail-là. Et fondamentalement, quand on passe dans un salon de BD, maintenant, on voit plus que des mecs cachés par des files de types qui font la queue avec... Moi, j'appelle ça la maroquinerie, parce qu'ils ont tous des gros sacs chargés de BD, donc on a l'impression de passer dans une maroquinerie à des moments. Et c'est tout ce que j'ai pas envie de voir, moi, dans la bande dessinée. Ce que j'ai envie de voir, c'est de rencontrer les auteurs. Alors moi, de rencontrer les lecteurs, ça s'est inversé maintenant, mais même maintenant, j'aimerais bien voir les gens dessiner sur des écrans, j'aimerais bien que ce soit une sorte de fête du dessin, une fête des histoires, des sujets, etc. J'aime bien les Utopiales pour ça, parce qu'il y a les conférences, la dédicace, c'est une sorte de xème roue du carrosse. Et éventuellement, après avoir acheté le livre, après avoir vu la conférence, on va se faire faire un petit gribouillis sur le bouquin pour avoir un petit souvenir supplémentaire. Mais c'est vraiment la dernière chose qui arrive. Ce qui est important, c'est la rencontre, c'est les discussions, c'est les échanges, c'est le petit dessin dans sa chambre ou dans sa bibliothèque, bon sang de bois, quoi.
Et le modèle américain de faire payer la dédicace,
à titre personnel, il y a déjà trop de business dans mon art. Je suis un gros auteur, il y a beaucoup d'argent qui circule, j'ai vraiment pas envie d'en rajouter. Si je peux rester un contact gratuit, voire en volontariat, en bénévolat sur tous les autres terrains en dehors des bouquins, je serais pas contre, quoi.
Oui, mais en tant qu'auteur aimé, tu peux comprendre que tes admirateurs, tes lecteurs, ils aient envie aussi soit de posséder une planche, soit de posséder une dédicace. Enfin, un dessin de planche, c'est super important.
Je fais des travaux en numérique, donc les planches, ça devient compliqué aussi. Non, pour moi, l'œuvre, la seule œuvre et l'unique œuvre, le seul truc qui compte, c'est ce que vous avez dans les mains quand vous lisez un album de bande dessinée. D'accord. Je travaille pour faire des livres. L'empruntez à la bibliothèque, je vais même pas dire de l'acheter, quand vous l'empruntez à la bibliothèque et que vous allez dans vos chiottes pour le lire, c'est pour moi, c'est ça que je fais. Et vous sortez des toilettes tout content et avec les fourmis dans les fesses parce que vous êtes resté trop longtemps pour lire le bouquin. C'est pour ça que je bosse, quoi, entre guillemets. C'est pas pour la plan. Ouais, tout le monde a vécu ça, je pense, une fois. L'art en absolu, le dessin. Mais je suis pas dessinateur, moi, je suis auteur de BD, quoi. Je fais des dessins pour raconter des histoires, quoi. Et mes histoires, je les raconte dans des livres. Et c'est ça que vous, quand vous avez dans les mains le bouquin, vous avez pour moi l'original, quoi. Le seul qui compte, quoi.
Ok.
C'est ça, et sans ça que c'est de l'art pop. Voilà. C'est de l'art qui est accessible à tout le monde, quoi.
Ok. Et bah c'est une encore plus belle conclusion. Merci beaucoup, Denis. C'était cool.